le Seigneur est capable à nous donner. Donc si chacun d'entre nous, s'il y a quelqu'un qui nous a blessés dans le passé, qui reste des rancœurs, des difficultés à pardonner, même la colère, le Seigneur est en train de nous dire que si tu veux, je peux te guérir de ça, je peux ôter cette blessure avant même que cette personne ait assez de courage ou de force, de caractère ou de vertu de faire un pas envers vous. Et si un jour ça vient, votre cœur, il est déjà en paix. Donc c'est ce magnifique cadeau que le Seigneur veut nous accorder. On va demander à Saint-Cloud de nous les aider à ouvrir nos cœurs pour l'accueillir. Et en même temps, si c'est dans l'autre sens, si des personnes qui ont la conscience d'avoir aussi blessé, qui ont de rancœur envers nous, c'est demander cette aide aussi de faire le premier pas pour faciliter une réconciliation. Donc pour le faire, je vous invite à vous lever. On va accueillir notre cher Saint Patron. On a la joie ce soir d'accueillir pour la première fois Fouad Hassoun, que vous avez déjà, peut-être vous connaissez, qui va donner son témoignage de son propre chemin de pardon. Il a écrit un livre il y a 5 ans, « J'ai pardonné ». Je veux bien que chacun puisse aussi écrire son propre fascicule, ce petit livre, ce témoignage de pouvoir dire la même chose. Fouad qui vient de Liban, un pays qui a connu beaucoup de violence, de guerre, les attentats. Donc, c'est un de ces attentats qui fait partie de l'histoire personnelle de Freud qui va nous raconter ce soir. Et la puissance de pouvoir pardonner à ceux qui l'ont fait du mal. Mais Freud n'est pas juste resté là. Il a, depuis 40 ans, il n'a pas cessé de parler de la paix, du pardon. Il a même fondé une association, Phoenix, que vous allez pouvoir découvrir à entrée de l'église. Déjà son livre, une BD, d'autres éléments sur l'association Phoenix, et aussi qui cherche aussi de fonds pour payer toute cette démarche. Il visite quand même entre 30 et 40 000 personnes en personne chaque année en France, en sillonnant tous les collèges, lycées, tous les groupes qui veulent l'entendre pour parler de justement comment grandir dans cette paix, d'être devenu artisan de paix. Donc son message est magnifique. Et après, son association fait beaucoup d'autres œuvres aussi en France, au Liban, en aidant les femmes en fragilité, avec les enfants. Aussi, le paroisse à Gaza et aussi au Liban. Donc son œuvre est vraiment magnifique. Donc, vous pouvez le découvrir à la sortie de cette veillée. Et après, le témoignage de Freud, on va accueillir notre saint patron, le vrai. Le patron de notre saint patron, on peut dire, Jésus. Pour un temps d'adoration, mais aussi de faire une démarche qu'on va découvrir après. Il y a deux prêtres qui sont à votre disposition si vous le souhaitez à recevoir le sacrement de la réconciliation. Et en troisième, une fois que je change. Et cela pendant toute la veillée. Donc, avant d'accueillir Freud, on va ensemble invoquer l'Esprit Saint.
La paix soit avec vous. La paix soit avec vous, cet appel qui a jailli le matin même de Pâques. C'était l'appel pour apaiser les cœurs des disciples enfermés dans le cénacle. Les premiers mots du ressuscité. Je remercie le Père Richard, le Père Clément, le Père Thibault de m'accueillir dans cette belle paroisse, ainsi que mes deux amis, Lucie et Malo, qui ont fait des mains et des pieds pour que je sois là. Dieu ne refuse rien aux femmes. J'avais du mal à résister, mais j'ai tenté. Mais voici devant vous, sur cette terre qui a une histoire. Ce lieu a une histoire. Il respire la sainteté. Depuis plus de 15 siècles, porte le nom de ce prince, Saint Clodoald. Il est là, au milieu de nous, présent par ses reliques, présent aussi par tout ce qu'il avait porté ici, des baptêmes, des enterrements, des mariages, des communions, etc., etc., des peines et des joies. Cette terre respire la joie, respire la sainteté, car un jour, un prince a renoncé. Pas seulement au pouvoir, il a renoncé à la vengeance, à la haine, à la destruction. Oui, il pouvait venger sa famille. Il pouvait reprendre le pouvoir et remonter sur le trône. Il a préféré la vie monastique, il a préféré s'effacer par amour pour Dieu. Il a donné sa vie pour la paix. Le prince du pardon. Mais le prince, c'est Jésus-Christ. Et si Clodoald avait donné sa vie à Jésus, c'est pour lui ressembler, pour être ce martyr vivant que nous portons aujourd'hui sa mémoire au milieu de nous. Combien de violence il y a autour de nous, combien de violence il y a eu depuis. Mais l'histoire de France est quand même jalonné par l'histoire aussi de saints. Regardez le calendrier. Ils sont nombreux, nos saints. Et des saints aussi, avec le sceau royal. N'en parlons pas de Saint-Louis. Et d'autres. Et Jeanne d'Arc, et d'autres. On peut citer toute une litanie, mais ce soir, nous voulons rendre grâce à ce pardon qui a été offert à notre Père pour qu'elle respire cette bonne odeur de sainteté. Oui, mes amis, la violence continue à rôder autour de nous. Et cette violence m'a traversé aussi, il y a 40 ans, le Père Richard l'avait rappelé, il y a 40 ans, j'avais 17 ans. J'étais chez moi, étudiant en médecine, je préparais mes examens lorsque j'ai entendu du bruit dans la rue, dans un pays qui était pétri de la violence. En pleine guerre civile, on pouvait travailler, aller à l'école et aussi être acteur de cette fichue guerre, la plus stupide de toutes les guerres. Toutes sont stupides, les guerres, mais la guerre civile, c'est la plus stupide d'entre toutes. Car ce sont des frères et sœurs, des amis, des voisins, des gens du même pays qui s'entretuent. Et nous avons peur, nous avons entendu l'actualité récente et nous avons peur de cette violence qui vient frapper nos jeunes. Et il y a des morts. La détresse aussi, elle fait des morts. Il y a des jeunes qui se suicident, qui n'ont plus le goût de la vie. Ils n'ont plus le sel qui donne cette saveur. Et c'est violent aussi. C'est violent pour les parents, c'est violent pour les amis, c'est violent pour tous. Notre société, elle court à sa perte? Non, nous avons encore des modèles auxquels nous pouvons nous accrocher pour y aller. Et donc moi, au milieu de cette guerre, j'avais un modèle. Le Seigneur avait offert au Liban son premier saint, Charbel. Que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. On priait pour que la guerre cesse. On priait pour qu'il y ait un miracle. Et ce jour-là, le 21 janvier 1986, c'était le basculement. J'ai entendu beaucoup de bruit dans la rue. J'ai sauté sur la fenêtre pour être dans l'action, comme un jeune combattant. Je voulais savoir ce qui se passe. Je voulais être prêt à agir. Et plus rien. Car là était postée la mort. Une voiture piégée de plus de 300 kilos de TNT qui venait d'exploser. Je suis parti en l'air. Je suis allé dans le tunnel de la mort. J'ai crié, « Ô Sainte Vierge, je ne veux pas mourir, je ne suis pas prêt. » Elle m'a retenu. Dans un silence de mort, j'ai entendu mon cœur battre. Alors je me suis rendu compte que je n'étais pas mort. Mais j'y étais presque. Et les ambulanciers qui m'ont amené à l'hôpital, ils m'ont mis à la morgue, au milieu des morts. Et voilà qu'un cousin qui est venu me chercher pour me reconnaître avait vu que sous le drap blanc qui était posé sur moi, ça bougeait. Et je l'entends crier, « Il est vivant ! Il est vivant !» Tout le monde accourt, je suis dans la salle d'opération. Mes parents venaient d'arriver parce qu'ils avaient entendu à la radio que leur fils était mort. Ils se précipitent pour appeler des chirurgiens et j'ai subi 20 heures d'opération. Le lendemain, j'étais dans mon lit d'hôpital. À peine réveillé, j'entendais les gémissements de tous ceux qui m'entouraient, qui pleuraient mon sort et peut-être qu'ils n'osaient pas le dire, mais ils le pensaient. Il aurait mieux fallu qu'ils meurent que d'être dans cet état. Je ne vous laisse pas imaginer l'état dans lequel j'étais. Le chirurgien qui a refait mon visage avait demandé à mes parents une photo de moi, juste pour voir à qui je ressemblais. Bon, il a fait du bon job. Il est important de consoler les miens parce que j'étais vivant. Il est important de fêter cette première victoire car ces terroristes qui ont mis 300 kilos d'explosifs, ils voulaient tuer, terroriser et faire des morts. Donc j'étais vivant. Et que faire de cette vie-là ? Il fallait soigner les blessures, donc je me suis trouvé à Genève, où un chirurgien devait opérer mes yeux, me redonner la vue et que je puisse retourner chez moi. Le sort en a fait autrement. Il m'apprend, après la première opération, que j'étais devenu aveugle. Une nouvelle bombe venait de m'exploser à la figure. Une bombe beaucoup plus puissante que l'autre. Parce que là, j'étais seul. Pas entouré des miens, pas une main pour tenir la mienne, pas une épaule où je pouvais poser ma tête pour pleurer, pour me consoler. Et là, j'explose en colère. Pourquoi moi? Pourquoi Dieu le Tout-Puissant, il laisse faire? Pourquoi tant de haine dans ce bas monde? Je criais ma colère, mon incompréhension. Je criais fort, mais aucune réponse. Pourquoi, Dieu, permets-tu cela? Et pourquoi moi? Et là, je vois défiler devant mes yeux qui ne voyaient rien le film de la guerre. Mon grand-père, assassiné le 21 août dans l'église où nous étions rassemblés, et des miliciens sont venus pour tuer tous les chrétiens qui étaient là. Lui, il s'est opposé, il a bloqué la porte, ils lui ont tiré dessus. Ils n'ont pas pu rentrer, ils ont fait 10 morts et ils sont partis bredouille. J'étais là, j'ai vu de mes yeux. J'ai vu la mort devant moi. J'ai vu mon oncle assassiné devant chez lui. Mon cousin enlevé qu'on n'a jamais retrouvé. Mes camarades fauchés par une bombe, etc. Tout cela. Et pourquoi ? Pourquoi Dieu laisse faire ? Et pourquoi moi ? Après tout, j'ai rien fait. Ce n'était pas un jour où j'étais sur les barricades. J'étais là pour espérer un avenir, pour devenir médecin, chirurgien, réparer les blessures. Et voilà que je suis seul dans un pays où je ne connais personne, où personne ne me connaissait. À quoi bon vivre en aveugle ? Et pourquoi ? Pourquoi moi ? Au bout de cette nuit blanche qui était la plus noire de ma vie, épuisée de ma colère, terrassée par ma détresse, je tenais sur un fil où je demandais à Dieu, quand même, tu peux me guérir. Toi, tu es capable de tout. Et il m'interpelle, comme Jésus au bord du lac, à Simon-Pierre, m'aimes-tu ? Mais bien sûr, et c'est au nom de cet amour que je te demande de me guérir. Et puisque tu m'aimes, tu vas accepter. Accepter quoi ? L'inacceptable. Et ce débat a duré quelque temps. Il est plus fort que moi. J'ai abdiqué. Je me suis levé, j'ai rangé ma chambre. J'ai fait ma valise, j'étais dans le couloir à tâtonner sur les murs. Je voulais partir. Je voulais quitter cet hôpital. Et quand on m'a demandé, où vas-tu ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je dis, je vais faire l'aveugle. Quelques jours après, j'étais dans un centre de rééducation. J'ai appris en 3 mois le programme d'une année, comment lire et écrire le braille, comment marcher tout seul dans la rue avec une canne blanche, comment m'habiller, manger tout seul, être autonome. Et puis voilà, pendant ces 3 mois, j'ai décidé de ne pas rentrer chez moi. À mon père qui était venu me voir à Genève, je lui ai dit, papa, vous m'avez dit de ne pas revenir les mains vides. Je ne rentre pas. Je pars à Paris faire des études supérieures. Tu vas faire quoi ? Des maths appliquées. Les yeux fermés ? Oui, papa. Puis quoi encore ? Le Paris by night toute la journée ? Tu te prends pour qui ? Je dis, papa, vous n'avez qu'à convaincre maman. Je vais aller étudier et faire en sorte d'avoir un avenir. Il n'a pas réussi à convaincre maman, mais je suis quand même allé à Paris. Je suis là, à travailler, à profiter de la paix qu'il y avait dans cette ville, même s'il y avait eu, pas loin de moi, il y a un jour, l'attentat de la rue de Rennes. C'est quand même, ça me poursuit jusque-là, quand même, c'est pas possible. Mais je travaillais, je sortais beaucoup, je profitais de la vie, de cette belle vie, de la ville aux lumières, où je voyais rien. Mais des soirées, du travail, j'ai dompté mon handicap, j'ai réussi mes études, tout allait bien. Mais il y avait en moi une tristesse profonde, mélancolie, tapis au fond de mon cœur, lourde, sourde. Je ne savais pas ce que c'était. Je cherchais des accompagnements, des retraites spirituelles, tout ce qu'il y avait à ma disposition, mais toujours rien. Je ne comprenais pas pourquoi. Au fond de moi, j'étais triste et tout allait bien extérieurement. J'avais beaucoup d'amis, la vie me réussissait et c'était vraiment la fête. Non, ce n'est pas l'handicap. C'est quoi, peut-être la solitude ? Alors j'ai fait venir mon frère cadet et puis ça a été la joie pendant quelques jours, une semaine, 10 jours. Puis je retombe dans cette mélancolie. Jusqu'au jour où devant une télé, en train de suivre une émission avec mon frère sur les voitures piégées à Beyrouth, le présentateur annonce que la personne qui avait posé la bombe au 104, route de Damas à Beyrouth, venait d'être arrêté, conduit au tribunal pour être jugé. Le sang n'a fait qu'un tour en moi, et l'esprit de vengeance de l'enfant de la guerre que j'étais a surgi en moi. Si je pouvais passer par la télé, aller lui arracher les yeux, lui crever le cœur, le tuer, me venger, assouvir ma haine. Assouvir ma haine. Je tombe à genoux et je dis, Seigneur, pardon. Pardon, comment ai-je pu vivre avec cette haine en moi? Vous m'avez ouvert un boulevard devant moi, de joie, de bonheur, d'allégresse, de facilité. Et je suis là, enfermé dans cette haine, s'il te plaît. Pardonnez-moi, mon Dieu, je ne peux pas rester là-dedans, je ne veux pas rester là-dedans. Je suis à genoux, je pleure, je supplie le Seigneur de me pardonner, de me libérer de cette haine. Et là, comme un boomerang vient s'imprimer devant mes yeux qui ne voyaient rien, en lettres fluorescentes, brillantes, en gras italique, une phrase d'une prière que nous connaissons tous par cœur, que je récitais plusieurs fois par jour. Je savais la réciter à l'endroit et à l'envers. En araméen, en libanais, en français, en arabe, en tout ce que vous voulez, même en anglais, mon père. Et là, une phrase. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'ai tout de suite compris le piège qui venait s'enfermer sur moi. Comment ? Comment pardonner à cet homme qui a tué plus de 35 personnes, qui a fait 200 handicapés, des centaines d'orphelins? Non, celui-là, il doit être donné comme exemple à tous les terroristes, à tous ces méchants qui tuent gratuitement. Non, non, je ne peux pas, je ne sais pas, et je ne veux pas. Deuxième interpellation. M'aimes-tu? Oui, Seigneur, et je vous demande de me pardonner. D'ailleurs, la première partie de la phrase, je la prends. La deuxième, laissez-nous faire nos affaires, nous, les hommes, entre nous. Et comment je vais faire? Je ne sais pas. Je n'ai pas appris. Je n'ai connu que la haine, la rancune, la vengeance. Non, Seigneur. Et puis, là, j'appelle mon oncle qui me file un pistolet. Je lui mets deux balles dans la tête. Et c'est fini. Et c'est réglé. Et je suis libre. Et justice est faite. M'aimes-tu? Oui, alors pardonne-moi, Seigneur, si, parce que je t'aime. Et si tu m'aimes, tu pardonnes. Non, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne veux pas. Et je me lève, je prends mon téléphone. Vous savez, les téléphones filaires qui existaient à l'époque. Je compose le numéro de mon accompagnateur spirituel. Oui, père, il faudra que je vous voie. Oui, je prends mon agenda. Cette semaine, c'est compliqué. La semaine prochaine, le jeudi, j'ai un petit quart d'heure. Non, non, mon père, c'est aujourd'hui, maintenant, c'est une histoire de vie et de mort. Je suis devant lui, je fais une confession générale, ça a duré 2 heures et demie. De l'âge de 7 ans à 20 ans, le mal que j'ai fait, le mal que j'ai subi, moi, ma famille, tout ce que vous voulez, ça a duré. Puis je lui raconte mon histoire de la télé. Il se gratte la tête et me dit, oh, mon pauvre, tu n'as que le secours de Marie. Ça veut dire quoi ? Pas y a une retraite mariale en Ardèche auprès de Notre-Dame-des-Neiges. C'est des exercices de Saint-Ignace. C'est en silence. Tu vas prier, discerner. C'est quand, mon père? Ah, mais c'est juste une semaine avant mes partiels. Tu m'as dit que c'était une question de vie et de mort, non? Oui. Je suis allé. Bon, le silence pour moi, vous avez compris, c'est difficile. Hein, mais c'est pas grave, j'ai premier jour, silence, silence, il n'y a rien. Deuxième jour, n'ayant rien, on retourne la terre, on, je ne sais pas quoi, les exercices de Saint Ignace, je vous les conseille. Troisième jour, toujours rien. Quatrième jour, le silence total, l'absence, le rien. Je suis démuni. Cinquième jour, je suis devant la statue de Notre-Dame-des-Neiges, au-dessus de la colline, et je dis, Marie, à vous, votre fils ne refuse rien. S'il vous plaît, obtenez pour moi cette grâce du pardon. J'en ai besoin, s'il vous plaît, Marie. J'ai besoin de ce pardon. Aidez-moi. Et là, comme une brise légère qui est venue m'envelopper, une main qui prenait la mienne, dit, tu vas y arriver. Je t'y amène. Je descends de là, je raconte au prêtre qui prêchait la retraite ce que j'ai vécu là-haut, au pied de la Sainte Vierge. Il est qu'au presto, il ne me prend pas le bras, il me met devant les retraitants, il dit « Vas-y, raconte ce que tu as vécu là-haut. » Premier témoignage. Téléphone arabe fonctionnant bien chez les cathos. Je suis à Saint-Cloud le 19 février 2026. Et ça continue. Et puis, petit à petit, d'un témoignage à l'autre, je vis ce pardon s'accomplir petit à petit en moi. Il fallait que je pardonne à tous ceux qui ont fait du mal, à ma famille, à mon pays, à moi-même. Tout cela était nombreux. Celui qui a tué mon grand-père, celui qui a assassiné mon oncle, celui, tac, 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 et tout ça, ça. Puis c'est petit à petit, ça se libérait jusqu'au 25 janvier 1996, où je suis à la messe, célébrant la conversion de Saint Paul. 10 ans, presque, jour pour jour. Moi, je suis tombé aveugle le 21 janvier 1986. Nous sommes en 25 janvier 1996. Les lectures, magnifiques, les actes des apôtres, la lapidation d'Étienne, l'archidiacre, premier martyr de la foi. Qui était là, seul, qui supervisait la lapidation. C'était... Il voulait vérifier que ça allait bien, hein, que les mecs ils faisaient bien le job. Et là, Étienne, juste avant de mourir, il lève les yeux au ciel, il voit le Seigneur à la droite du Père, parce que lui, il était lapidé, parce qu'il a dit que le Christ est ressuscité, il est vivant. Une hérésie, un blasphème, pas possible. Et là, avant de s'endormir, il dit quoi ? Hey, patron ! Ne leur compte pas ce péché ! Et puis il s'en va. Il s'endort dans la mort. Ne leur compte pas ce péché. Et ça continue, tagada, tagada, Saul qui prend la demi-mission, il part à Damas pour mater les hérétiques qui étaient là-bas, pour les ramener à Jérusalem, pour qu'ils soient emprisonnés, flagellés, et qu'ils arrêtent cette hérésie de raconter que le Christ, Jésus-Christ est vivant, et non, non, non. Ça vaut rien tout ça. Il prend la lettre de mission avec ses troupes, et Jésus le croise où ? Sur la route de Damas, et plat comme une lumière, nous, pff, qui m'éclaire mon esprit, mais c'est vrai. Route de Damas, c'est là où je suis tombé aveugle. Et là, il tombe aveugle, le bonhomme. Il mord la poussière. Moi, j'ai dû bouffer autre chose. C'était grave, lui aussi. Et puis, paf, conversion de Saint Paul. Énorme. Là, mon cœur se réjouit, je vois le signe, etc. Vous voyez, donc, on aime bien avoir des signes comme ça. Route de Damas, moi, aveugle, je témoigne depuis 10 années, machin. Et là, je me lève pour aller communier. Et dans mon cœur retentit cette phrase qui est devenue le titre de mon livre, « J'ai pardonné, j'ai pardonné ». J'arrive devant le prêtre, je me mets à genoux pour lui, puis j'étais en larmes, il a cru que j'avais fait une grosse bêtise, il met la coupe sur ma tête et moi je n'avais qu'une seule envie, c'est de communier. Je retourne à ma place et là, j'ai pardonné, mon Dieu, oh, quel bonheur est là, waouh, c'est fait, c'est fait. Quelques semaines après, je suis invité dans une émission télé au Liban, le mercredi saint, pour témoigner. C'est une émission sur la réconciliation, c'était les gens pour, les gens contre, et moi j'étais là avec mon témoignage où je n'étais pas revenu au Liban depuis des années. L'animateur, c'était un Cyril Hanouna à la libanaise. Donc je donne mon témoignage et je me fais tout petit. Je dis, il faut qu'il me fiche la paix. Je ne veux pas qu'il m'embête. Hein. Ça n'a pas loupé. Fouad, j'ai une question à te poser. Est-ce ton pardon définitif et irrévocable à cet homme? J'ai le micro à la main et je réponds du tac au tac, après avoir entendu dans mon cœur, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Si cet homme était en face de moi, je me lèverais, je le prendrais dans mes bras, je l'embrasserais et je lui dirais que je l'aime. Heureusement que j'étais assis. Je me suis dit à la fin de l'émission, on va m'interner. C'est foutu, je ne suis pas interné. Je pars chez ma grand-mère qui a perdu son mari dans l'église. Il y avait mes oncles, mes tantes, les cousins qui m'attendaient. Alors je pensais qu'ils allaient me faire la fête, mais ils ont fait ma fête. Pour qui tu te prends? Tu marches sur le sang de nos martyrs. Tu souilles la mémoire de ton grand-père. J'espère que tu ne penses pas ce que tu as dit, me dit un de mes oncles. Tonton, je vais vous dire, vous savez quoi? Ce n'est pas seulement que je le pense, mais j'ai envie de le vivre. Je ne sais pas ce que c'est. Et il fallait que je rentre dans cette dimension de ce que j'ai dit. La hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur, j'en sais rien. C'était immense. Et je me suis engouffré là-dedans. Je rentre à Paris, où j'étais dans une grosse boîte, je faisais une carrière d'enfer, je gagnais un fric monstre et je bossais comme un dingue. Il faut donner tout sens à tout cela. Quel sens? Et je me suis un peu converti dans ma carrière à développer des choses pour les personnes handicapées. Les premiers logiciels permettant aux aveugles de lire l'écran, des sourds de se téléphoner avec un écran, des claviers pour les myopathes, etc. Et des inventions qui ont fait le tour du monde, eu un succès fou dans l'accessibilité. Je faisais des conférences à Los Angeles, à Dubaï, à Sydney, partout dans le monde pour raconter cette merveilleuse technologie qui permet aux personnes handicapées une autonomie et une vie extraordinaire. Monsieur Accessibilité et Monsieur Inaccessible. Je m'étais rendu compte que j'étais devenu inaccessible. C'était un peu starification, le pardon, toutes ces histoires. J'étais un peu coupé de la réalité, du monde. Et je rentrais souvent tout seul, là, chez moi. Personne à qui penser et personne qui pense à moi. Où est où l'amour? Toutes les filles qui m'approchaient se cassaient les dents sur les portes de mon cœur. Il était fermé. À double tour, blindé. Mon directeur spirituel m'envoie dans une retraite ignatienne en silence. Me voici dans un couvent à travailler les exercices de Saint Ignace. Et là, boomerang, à nouveau, je tombe sur cet évangile où on demande à Jésus le plus grand commandement. Mais tu le connais, mon petit? C'est quoi? Ah, écoute Israël, je suis ton Dieu. Tu m'aimeras de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme, de tout ton esprit. Ah, t'as bien parlé. Bravo, c'est vrai. Mais il y a un autre commandement qui est aussi grand, ni plus grand, ni plus petit. C'est égal. Aime ton prochain comme toi-même. Ah, petit Fouad. Prends ça dans la gueule. Je regarde dans la glace où je ne voyais rien, mais j'ai vu une tache noire dans mon cœur. Ce Fouad aveugle, en fait, je l'ai accepté, je l'ai intégré, je l'ai utilisé. Il fait ma joie, il fait mon bonheur, il fait mon succès, mais lui, il n'existe pas. Lui, il est rapproché. Tais-toi! Comme on l'a dit à Bartiméa. Tais-toi! Et je l'entendais crier. Ouh! Aie pitié de moi! Sortez-moi de là! Je veux voir, je veux vivre, je veux la lumière. Lui, je l'utilisais pour ma lumière à moi, pour mon succès à moi. Et là, je me suis penché vers lui. Oh, le petit pauvre aveugle! viens que je te fasse un câlin. Et là, je suis allé me confesser, la petite tache noire qui était sur mon cœur, heureusement qu'elle n'était pas indélébile, le monsieur, le prêtre, il a utilisé son effaceur, mon cœur s'est dilaté. Et là, boum, Laetitia est venue s'installer, et il y a 25 ans, que nous sommes mariés, nous avons 4 enfants, de 17 à 12 ans, adorables, de temps en temps. Mais adorables quand même, hein, de temps en temps. Et qui font notre bonheur, et parfois nos soucis aussi, et puis ils grandissent dans la joie, dans la foi, et tout ça. C'est merveilleux. Donc je suis un homme comblé. Il me rappelle aussi à la réalité des choses. Quand je suis en train de me fâcher pour une bêtise, les voilà qui retorquent. Mais papa, vous avez pardonné à celui qui vous a crevé les yeux, vous pouvez quand même me pardonner, non? Ouais, t'as raison, ma chérie. Et s'il t'est arrivé quelque chose d'extraordinaire? Il y a 10 ans, après les attentats du Bataclan, je marchais avec ma deuxième fille, Isor, dans les rues de Saint-Germain-en-Laye. C'est une vie très paisible, il ne se passe rien. Et puis, elle sait lire. Elle voit des pancartes. Attention, attentat, vigipérate, machin. Et elle me dit, papa, est-ce qu'il peut y avoir des attentats à Saint-Germain-en-Laye? Oui, ma chérie, il peut y avoir des attentats à Saint-Germain-en-Laye. Et on continue à marcher, elle dit, papa, est-ce qu'on peut mourir d'un attentat à Saint-Germain-en-Laye? Je ne peux pas lui mentir, hein. Oui, ma chérie, on peut mourir d'un attentat à Saint-Germain-en-Laye. Elle fait 2 pas, elle se retourne, elle me regarde de bas en haut, et elle me dit, et papa, que faites-vous, vous, pour que cela n'arrive plus? Je me baisse, il y avait une larme qui collait sur ma joue, je la prends, elle me dit, je te promets, ma chérie, je ferai tout pour que cela n'arrive plus, que cela ne t'arrive pas. Oui, je suis ému de ça. Mais, et là, mon combat, entre guillemets, pour la paix, a pris un peu place dans mon cœur. La gestation commençait. Puis oui, le pardon est la clé qui ouvre. Oui, c'est cette clé-là qui ouvre la porte vers la paix, vers ce royaume d'amour. Jusqu'au jour où il y a eu cette explosion du port de Beyrouth. C'est ma ville, c'est mon quartier qui a été détruit, c'est le quartier chrétien. Et tous les amis, des appels, est-ce que ta famille ça va, est-ce qu'il sait... Et puis on est vraiment triste. Et puis j'ai vu un élan énorme, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, mais on va faire quelque chose. Au milieu des cendres est né Phénix pour semer la paix. Cette symbolique du phénix qui renaît de ses cendres, cette renaissance. Rappelez-vous que vous êtes poussière et vous revenez à la poussière, mais c'est pour eux naître à la vie. C'est ça la résurrection, c'est la victoire de la vie sur la mort. Et phénix se déploie maintenant à semer les graines dans les cœurs de tous ceux que nous rencontrons pour apporter ce message que la charité fait que la foi devient espérance. La charité fait que la foi devient espérance. Cette charité qui est geste, qui est compassion, qui est amour, aussi transforme notre croyance en un avenir radieux que nous voudrons tous être éternel. Et cet avenir que je viens déposer aussi avec le prince du pardon, qui nous ouvre nos cœurs à la paix, à nous permettre de désarmer nos cœurs. Et pour cela, ce soir, maintenant, je vous demande de fermer les yeux. Faites-le, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour être comme moi, mais pour vous connecter à celui qui est plus grand que moi, qui est plus grand que tout. Et faites monter en votre cœur le visage, l'image, le nom de quelqu'un à qui vous voulez donner un pardon, à qui vous voulez demander un pardon. Quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un que vous avez offensé. à Jésus pour le manque de bien qu'on n'arrive pas à faire, pour le manque d'amour que nous avons du mal à donner, à offrir. Et vous allez faire cette démarche ce soir, d'écrire ce nom, ou plusieurs, et de les déposer au pied de Claude Wall, qui va intercéder pour nous ce soir, pour guérir nos cœurs, pour désarmer nos cœurs, pour ouvrir cette porte vers le bonheur. Faites ce geste de paix ce soir. Maintenant, n'attendez pas demain, quand le week-end d'avant, quand Jésus disait « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. » Il nous interpellait aujourd'hui, maintenant, vous êtes, nous sommes. Soyons encore plus lumineux. Donnons encore plus de saveur. Et le pardon de Étienne Café de Sol, ce grand apôtre des nations, qui humblement me met devant vous ce pardon, qui a pu aussi transformer cet assassin, ce jeune drogué qui a été en prison, qui a ouvert la Bible, qui a rencontré Jésus, qui a demandé le baptême. Il est sorti après 17 ans d'incarcération. Il est aujourd'hui directeur d'un des plus grands centres de rééducation, de réhabilitation d'anciens drogués. Il a à son actif 1230 jeunes qui ont quitté la drogue. Il passe sa vie à guérir pour rattraper le mal qu'il a fait. Paul a sillonné les nations et au bout, il dit à Dieu « Débarrasse-moi de cette épreuve. J'ai une écharpe qui me fait mal. Moi aussi, je dis « Seigneur, guéris-moi » et il me répond comme il répond à chacun d'entre nous ce soir « Ma grâce te suffit. » Mes amis, le ciel de Saint-Cloud est ouvert. Les grâces tombent. Ramassez-les comme les miettes de la syrophénicienne pour notre guérison. Amen.
Merci, chère Froide. Je vous invite de profiter de ce petit moment de silence pour nous préparer pour accueillir le roi de la paix, le vrai, seul capable de nous donner le pardon.